avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
On est un peu en retard parce qu'on a déblatéré dans Rage Against le matin. J'ai toujours ma chronique là, à la fin de leur émission. Puis les gars ont réagi. Et il y en a un qui, à distance, a vraiment réagi. Nathan Meyer, vous le savez, c'est notre collègue. Puis je vais vous dire qu'il a tellement réagi qu'il sera dans leur CV aujourd'hui. Hey, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle matinée, qu'il y a eu un petit moment de... Je veux pas dire détente, là, parce que des fois, on n'a pas le temps de se détendre le matin. Mais malgré tout, un petit moment qui vous a appartenu. Que ce soit les deux premières gorgées de café pour les parents, que ce soit de se lever un petit peu plus tôt que toute la famille, la marmaille, que ce soit simplement des gens célibataires aussi qui ont leur matin tranquille, que ce soit dans le trafic. Tu sais, des fois, on diabolise le trafic, là, puis c'est une des affaires qui, moi, me dérange le plus, donc je vous comprends. Sauf que c'est aussi un moment pour prendre soin de soi. Donc, écoutez les gars le matin, écoutez une chanson qui nous fait du bien, sirotez ce dit café-là, passez à la commande à l'auto d'un Tim Hortons ou autre, allez chercher quelque chose qui nous fait plaisir. Puis après ça, ben tranquillement arriver au bureau. Là, c'est le temps, justement, d'ouvrir le Twitch, de prendre son temps, twitch.tv/blvd/fm, pour vous aujourd'hui, faire la blague. Je me sens bien, hein, cette petite blague qui perdure au sein de Boulevard 102.1. Et j'ai mis un superbe chandail que j'ai trouvé et qui restait simplement en large. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est à moi. Un chandail d'un de mes bands favoris. Un band qui a marqué les autres bands et qui a marqué le monde de la musique au point où ça a influencé aussi beaucoup d'artistes que l'on connaît et la musique en général. Saurez-vous deviner quel band je porte aujourd'hui, si jamais vous n'êtes pas sur Twitch, hein? 88-971-1021. On pourrait essayer de faire deviner aux gens. Mais avec les indices que je vous ai donnés, est-ce que vous êtes capable de savoir qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Fièrement, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas sur Twitch pour les autres, ben c'est facile. Je veux dire, vous le voyez en temps réel. Hey, mon nom est Pascal CV. On est ensemble jusqu'à 11h. On a une belle heure depuis l'automne. On va en profiter jusqu'à temps que ça cesse pour la période estivale. C'est un bonheur de vous savoir là. Et j'aimerais prendre les présence justement au 88-971-1021, peut-être avec votre essai de quel band je porte ou encore tout simplement avec une petite salutation. J'espère que vous allez bien à 20 degrés à l'extérieur. C'est le temps de sortir encore une fois aujourd'hui. Ça va monter jusqu'à 28 et je ne vois pas de possibilité d'averse. Ce n'est qu'alternance soleil-nuage, majoritairement du soleil pour toute la journée. Il faut peut-être en profiter parce que la pluie devrait être au rendez-vous à partir de vendredi. Ce matin, je me suis offert un petit temps à moi. Je me suis offert un petit temps pour me réveiller comme il faut. Je suis allée jogger dans mon quartier, puis ma journée a été faite à partir de 7h, là, ma journée était faite, 7h, 8h, parce que en joguant, il y avait un petit gars qui se rendait à l'école tranquillement avec son sac à dos, sa casquette, là, ses souliers à moitié attachés, puis qui m'enlignait, puis qui me dit « on fait une course jusqu'à mon école ». Fait que j'ai jogué avec le petit gars jusqu'à son école, j'ai laissé gagner, faut pas y dire, mais ma journée était faite, fait que je suis de bonne humeur pour le reste de la journée grâce à ça. Les petits bonheurs, hein, dans les toutes petites choses, j'ai adoré faire ça ce matin. Vous, c'était quoi votre bonheur aujourd'hui? C'était quoi le petit bonheur de votre matinée? Puis sinon, s'il n'y en a pas, ben c'est pas grave. Vous pouvez vous confier comme d'habitude. C'est un espace sécuritaire ici, leur CV. Il y a Nathan Meyer, oui, qui a répondu, qui a embarqué et qui a réagi au sujet dont on parlait ce matin. Parce que bon, dans l'actualité, vous avez vu cette semaine peut-être ou peut-être pas que tous les enfants qui ont été adoptés et qui recherchent leurs parents biologiques auront maintenant la possibilité d'avoir des réponses, même si le parent biologique souhaitait garder l'anonymat, souhaitait être discret, souhaitait à ce que son nom ne soit jamais divulgué. On a décidé que ça allait se faire autrement, du moins au Québec, et que ceux qui recherchent un peu leur identité, leur passé, auront cette chance-là d'avoir un nom, d'avoir une histoire collée sur leur propre vie. Et ça, c'est sûr qu'on peut se poser des questions. On peut se dire, admettons que c'est un enfant issu d'un viol et que les parents, ben, ou la mère dans ce cas-ci, a mis à terme cette grossesse-là, puis que finalement, il s'est dit, hey, je ne serai jamais capable de donner tout l'amour que cet enfant-là nécessite, a besoin. Je préfère ne pas être en contact avec lui pour ne pas le voir d'une manière différente que c'est un magnifique enfant, puis qu'il doit avoir une vie comme les autres. Est-ce que ça peut changer les choses? Je ne sais pas. Peut-être. Mais cette décision-là a été prise. Au-delà de ça, Il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres qui disent à quel point c'est important de savoir d'où on vient, que ça a vraiment un impact très, très fort sur notre développement. Je ne sais pas si on peut réaliser, nous, quand on a toutes les réponses à nos questions depuis qu'on est jeune. Donc, on sait qui sont nos parents, on sait quelles sont leurs personnalités, leurs défauts, leurs qualités, qu'on est né au sein de notre foyer. C'est ça, biologique, en fait, là, parce que je pense qu'il y a des parents qui ne sont pas biologiques, qui sont encore meilleurs que certains parents biologiques, et ça, j'en suis convaincue là, pour entendre plein d'histoires, mais ça reste qu'on ne peut pas comprendre à quel point c'est une quête identitaire. Et Nathan a répondu que lui va faire une demande très spéciale dans les prochaines semaines en relation avec ça, puis il va nous en parler un peu plus tard. À leur CV, on va le recevoir avec grand plaisir. Il a tellement été intéressant dans ses propos, puis il y a plein de choses à nous partager là-dedans. Jérémy Guy aussi va faire son tour ici à l'émission. On va jaser du fameux sondage qui est sorti. Sondage en politique. Ouais, ça a bougé un peu, mais encore là, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? La CAQ a remonté dans les intentions de vote. Un sondage léger québécois, la CAQ remonte, le PQ stagne dans les intentions de vote. Ça a changé un peu. On a stoppé un peu l'hémorragie du côté de l'équipe de François Legault. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont fait certaines choses dans les dernières semaines qui vous a ramené un peu à ce parti-là? Ou c'est simplement parce qu'on n'en a plus parlé de déboire que ça saigne un peu moins pour les intentions de vote du côté de la CAQ? On est en train justement de freiner un peu tout ce qui est actualité politique. C'est normal. L'été s'en vient. La saison estivale sera là. On se pose des questions qui sont différentes. Puis surtout, on reste discret du côté des partis politiques, mais c'est ce qu'on a comme constat. Est-ce que vraiment ça fait un changement? Je ne sais pas. On va en parler tantôt avec Jérémy Guillot, expert en politique. Autre chose que je veux jaser avec lui, c'est les parlements étudiants. On va faire ça vite, vite, là. Mais il y a des gens, des jeunes, qui font des simulations politiques. Puis on oublie que ça existe, ces affaires-là, parce que quand tu n'es pas là-dedans ou quand tu n'es pas dans les médias, peu importe, je ne pense pas que tu connais nécessairement le processus. C'est pas nécessairement pour former les futurs politiciens, mais oui, ça donne une bonne idée de comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Puis les jeunes ont des rôles bien précis, là. Puis ça fait l'actualité, ça fait la manchette aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Si oui, dites-moi tout. Le proverbe de la journée. Les rumeurs sont créées par des jaloux, crues par des curieux et répétées par des imbéciles. Les rumeurs sont créées par des jaloux, crues par des curieux et répétées par des imbéciles. Je l'adore, celle-là. Oh, j'aime ça, ces affaires-là, ces petits proverbes-là. Puis merci, quand je les oublie, de me ramener aux bonnes habitudes puis de me dire, Pascal, quel est notre proverbe de la journée? En ce 5 juin, le voici. À 20 degrés, c'est le clan de la savate. À Boulevard 101, dans leur CV, voici Électrique. Pascal CV. Il fait 20 degrés, puis vous m'envoyez des photos de vos bureaux alternatifs. J'appelle ça des bureaux alternatifs, ça veut dire ceux que vous êtes créés d'une manière, semi-broche à foin, mais assurément bien plus fun que d'être entre quatre pans de mur ou encore pris dans un bureau pas de fenêtre ou encore dans votre établissement professionnel où tout le monde est à l'intérieur. La photo que j'ai préférée, là, c'est une équipe de 10 personnes qui ont sorti leur portable, probablement que le Wi-Fi, le réseau se rend aussi loin. Ils sont en genre de cercle, là, dehors, dans le gazon, avec des couvertures. Moi, je vous salue. C'est Alex qui m'a envoyé cette photo-là. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Par texto, vous avez essayé de deviner quel T-shirt je portais aujourd'hui sans aller sur Twitch. Il y a énormément de Pink Floyd et de Queen qui sortent. Ça veut dire que c'est du monde qui me connaissent très, très bien, mais ce n'est pas ces groupes-là. Je vous ai dit, c'est un groupe qui a fortement marqué la musique à travers les années, qui a été plus que populaire. Les gens s'arrachaient les membres mêmes du groupe. Et assurément que ça nous a menés dans la période musicale que l'on est depuis leur construction, depuis leur existence. Il y en a qui ont quitté à travers le temps. C'était à beaucoup d'indices. On va aller rejoindre notre chroniqueur politique qui est au bout du fil. Lui aussi, il en a des journées bien chargées ces temps-ci, Jérémy Guillot, qui est là. Salut, Jérémy.
Bonjour, Pascal.
Avec les indices, toi, as-tu trouvé quel T-shirt de band je portais aujourd'hui?
Malheureusement, j'ai pas pu suivre la saga du T-shirt.
Donc, t'es pas capable d'essayer. Il y en a qui commencent à l'avoir tranquillement, pas vite. OK. Mais là, t'aurais pu donner la réponse, mais on va s'abstenir. Ça, parce que je sens que que là, tu cherches. Là. Je vais te garder en politique. Tu es directeur chez TAC. Ça bouge.
Je vais me concentrer sur mon champ d'expertise.
Oui, c'est ça. Tu es directeur chez TAC. Ça bouge beaucoup ces temps-ci dans pas mal de domaines, puis de champs ministériels, je vais le dire comme ça. Mais en même temps, c'est absolument calme parce qu'on arrive à cette fin de période, en fait, politique, hein, Jérémy?
Bien, c'est la fin de la session parlementaire de tous les côtés. À Québec, c'est la dernière semaine où on va voir les ministres à l'Assemblée nationale avant de s'en aller pour l'été. À Ottawa, il reste encore quelques jours. Là, normalement, ça se termine un peu plus tard. Donc, ça se bouscule aux portions pour faire adopter les derniers projets de loi. On voit les syndicats, les groupes de pression faire leurs dernières demandes avant de voir les élus partir pour l'été. Et là, quand je dis partir pour l'été, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils partent tous en vacances nécessairement tout l'été. C'est surtout ils retournent dans leur circonscription. Donc, on risque de les voir à plusieurs moments dans leur circonscription, faire différentes activités. Bien évidemment, ils vont se prendre quelques jours de congé, mais on va les voir sur le terrain. Ils quittent l'Assemblée nationale et le Parlement pour revenir chez eux.
Oui, puis là, ça va quand même être mérité quand même ces petits jours-là de repos, là, qu'on aime ou pas le parti.
Pour certains, ça va peut-être être le temps de faire une opération remontée dans les sondages. Hein. On a vu des sondages ce matin. C'est pas un beau ciel bleu éclairé sans nuages pour tout le monde.
Mais là, attends, Jérémy, là, une période de remontée dans les sondages. Moi, j'ai un peu du mal avec ceux qui vont utiliser le silence et la discrétion pour remonter dans les sondages parce qu'on a eu beaucoup de polémiques, on a eu beaucoup de discordes au sein de la CAQ, il faut le dire, mais aussi entre les partis. Il y en a plein qui sont en redirection, qu'on pense au PLQ, entre autres. Là. Il y avait un autre sondage qui est sorti ce matin. On dit que la pluie à Denis Coderre s'est dégonflé chez les électeurs libéraux. Marc Tanguay, qui est le chef par intérim, a grimpé auprès des électeurs libéraux, mais ce n'est pas nécessairement celui qui va être à la tête du PLQ, il l'avait annoncé.
Il faut faire attention à ça, par exemple, parce que ceux et celles qui connaissent bien Marc Tanguay le savent. On dit à la blague que c'est quelqu'un qui dormait habillé. Donc, peut-être que M. Tanguay pourra être... séduit par le chant des sirènes et se laisser tenter à la dernière minute. Ce qui va être important, c'est qu'il démissionne de sa position de chef par intérim. Mais si la tendance se maintient, si ce qu'on voit en ce moment se concrétise, Marc Tanguay est à 30%, fortement en avance devant Denis Coderre.
Qui est à
12. Et les autres participants. Par contre, il ne faut pas négliger 36% des répondants. Les voteurs libéraux ne savent pas qui appuyer dans la prochaine chef. Et c'est là que les débats, la campagne à la chefferie qui va s'ouvrir en janvier 2025 va être particulièrement importante.
Ah, tu le disais, c'est ton champ d'expertise. C'était absolument des chiffres importants à mentionner ce matin. Puis c'était pas nécessairement notre sujet, mais c'est bon qu'on tombe là-dedans un peu. Le 36%, c'est encore plus que l'appui à Marc Tanguay, comme tu dis, de gens qui ne savent pas ou qui refusent en fait les candidats actuels ou ceux qu'on porte comme candidats, parce que la date de Marois Risky, mais elle ne s'est pas présentée comme étant officiellement celle qui pourrait être à la tête du PLQ. Là. Elle a d'autres idées pour sa carrière politique pour l'instant, tout en restant au sein du Parti libéral. Mais oui, ils ont interchangé leur position, Denis Coderre et Marc Tanguay, dans les sondages en février dernier. Denis Coderre était à 27% dans les intentions de vote pour être le chef du Parti libéral. Marc Tanguay à 12%. Et là, aujourd'hui, ce qui sort, c'est Denis Coderre à 12%, Marc Tanguay à 30%. Fait que oui, peut-être que dormir habillé, j'adore cette expression-là. C'est le cas de Marc Tanguay qui voit ça puis qui dit finalement, l'intérim, c'est une chose.
Peut-être mais... l'occasion pour moi. Puis en même temps, on voit très bien la profession de foi de Denis Coderre qui est parti se ressourcer en faisant le chemin de Compostelle aura peut-être pas donné les résultats attendus. Peut-être que M. Coderre aurait dû se lancer rapidement plutôt que de faire attendre et languir ses militants pour mousser l'intérêt. Pour moi, c'était avec Denis Coderre, je l'ai déjà dit de toute façon, le recyclage, c'est bon pour sauver la planète, pas pour sauver les partis politiques. Monsieur Coderre a fait des campagnes, s'est présenté à la mairie plus d'une fois, a perdu plus d'une fois. Je pense que c'est le temps de céder la place à une jeune génération. Au-delà des chiffres et des sondages, ce qui est intéressant dans la course à la chefferie du Parti libéral en ce moment, c'est qu'on commence à sentir un engouement. On parlait, il y a plusieurs candidats, on a déjà parlé de Monsieur Tardy, maire à Victoriaville. au moins, il y a une course. Il y a 5 candidats en ce moment de déclarer. Il pourrait en avoir d'autres. Et ça, il faut donner le crédit aux organisateurs qu'on a vertement critiqué au début quand ils nous ont dit « ça va être en 2025 ». Les observateurs, les analystes trouvaient ça trop loin. On fait languir les gens. On n'a pas le temps de s'établir comme chef. Stratégie qui, en ce moment, commence à porter fruit parce que je te ramène un petit peu en arrière, Pascal. Quand Dominique Anglade s'est fait nommer chef du Parti libéral du Québec, c'était une course à deux dans laquelle Alexandre Cusson, à l'époque, avait même abdiqué pendant la course. Donc, Mme Anglade s'est faite couronner, pas de donner de place à nécessairement de réels débats d'idées. Là, au moins, on va pouvoir avoir ces débats-là. Il va y avoir 4 grands débats pendant la course à la chefferie. Ça va laisser place aux potentiels candidats de faire connaître leurs valeurs et de donner le choix aux militants. Est-ce qu'on veut, par exemple, comme le Parti libéral du Québec l'a proposé la semaine dernière, retourner vers un esprit d'austérité? Ou bien est-ce qu'on veut aborder l'aspect des contrôles des finances publiques, mais davantage développement économique, etc.? Donc, il va y avoir un débat un peu plus gauche-droite cette fois-ci pour laisser la place aux militants de choisir le genre de chef et de leadership qu'ils veulent pour les prochaines années.
C'est intéressant ça. Puis la seule chose que j'ai envie de poser comme question aux auditeurs, c'est est-ce que vraiment vous le vivez cet engouement-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui témoignent depuis l'automne, puis même l'an dernier, depuis que je suis arrivée sur les ondes de Boulevard 102.1, être orphelin politique, c'est un peu l'expression que j'utilise depuis les 2 dernières années. Mm-hmm. Puis il y en a qui confirment ça, que oui, pour eux, c'est un peu le même contexte dans leur vie d'électeur, qu'ils se sentent un peu orphelin politique depuis que la CAQ n'a pas tenu nécessairement ses promesses, ça a été Girouette et autres. Peut-être qu'ils s'attendent, ces gens-là, à de la nouveauté du côté du Parti libéral qui est un peu en décrépitude ou encore en déroute parce qu'on cherchait même à l'intérieur du parti. Est-ce que vous vous intéressez justement à cette course du leadership parce que vous croyez et souhaitez peut-être avoir un parti à nouveau dans la course pour le Parti libéral qui a été longtemps élu au Québec malgré tout, là?
Si tu permets de bondir là-dessus, moi-même, je me sens orphelin politique au Québec. Tu sais, en tant que fédéraliste progressiste, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'options qui viennent me parler. Souvent, la solution à ça, ça peut être des fois de se tourner vers une chefferie puis de regarder ça avec attention. Et les candidats ne sont pas toujours connus. Ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Paul Saint-Pierre Plamondon, avant les différentes chefferies qu'il a faites pour le Parti québécois, était un inconnu du grand public. Donc, peut-être qu'un Charles Millard, un Antoine Tardy sauront nous surprendre dans les prochains mois.
Ça va être intéressant, ça. J'ai l'impression qu'il faut quand même se recadrer au niveau politique, autant au provincial qu'au fédéral. Parlons du provincial, parce qu'il y a un nouveau sondage, les Jeunes québécois, qui est sorti. Puis je le dis avec cette voix-là, Jérémy, parce que moi, j'ai décroché des sondages, tout simplement, parce qu'il y en a tout le temps. C'est un peu girouette, ça aussi. Ça change. Les écarts sont de quelques pourcentages. Je sais très bien que ça dépend sur qui on est tombé cette fois-là. Puis j'adore les consulter, mais je leur donne pas autant de lustre. Je ne trouve pas qu'ils ont autant de lustre qu'il y en avait. Puis c'est pas vu la firme, là. C'est pas du tout la firme léger. Mais ça change constamment de quelques points. Je regarde plus ça. Puis c'est quand même assez décevant lorsque viennent les élections. Puis j'ai peur des fois que ça influence ceux qui ne se renseignent pas aussi côté politique. Mais bon, ça nous donne un bel air d'aller. Et là, la CAQ a remonté. On sent qu'on a stoppé un peu l'hémorragie. On saigne moins. Mais aussi, de mon analyse de Kidam, là, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils n'ont pas fait parler d'eux d'une manière négative dans les dernières semaines. Puis peut-être qu'on a pris une pause de entre parenthèses, scandale. Le PQ a stagné dans les intentions de vote. Mais le gouvernement Legault, sans dire qu'il a repris toute l'avance qu'on lui a connue dans les dernières années, a un petit peu rebondi.
Bien, plusieurs choses dans ta question. D'abord, je vais rebondir sur la question des sondages. C'est vrai qu'on sent qu'on est bombardé de sondages. Moi, je compare souvent les sondages à des photos. Et Léger, c'est un peu le meilleur photographe qu'on a au Québec. Donc, Léger prend une photo de l'humeur des Québécois et des Québécoises une fois par mois pour confirmer des grandes tendances. Il faut faire attention quand on regarde des sondages de commenter des variations d'un point ou deux. Ce qu'on doit regarder, par contre, à long terme, est-ce qu'il y a une tendance qui s'installe? Par exemple, la CAQ qui tombait tombait, sondage après sondage, jusqu'à 22 % le sondage du mois de mai dernier, et là, qui semble avoir freiné cette chute-là. Là, c'est ça, c'est intéressant parce qu'on sent, OK, bon, on a trouvé notre point d'ancrage, on peut bâtir là-dessus. Donc, stopper l'hémorragie. À l'inverse, le PQ qui, lui, a monté, et là, semble stagner. Là, pour moi, l'explication, elle est simple. Le Parti québécois, son vote est souvent stagne avec l'appui de la souveraineté. Monsieur Saint-Pierre Plamondon fait le pari de parler très ouvertement et souvent de souveraineté, ce qu'il a payé dans les derniers mois, mais en même temps, ça va freiner des gens à appuyer le Parti québécois dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je serais très surpris de voir le Parti québécois dépasser des 32-35% qui, normalement, est le taux d'appui à la souveraineté du Québec dans la société.
Mais il est honnête. On peut lui laisser
il
ça.
Il est honnête. Il est honnête. C'est ses valeurs. Il les défend. Il n'essaie pas de nous dire « Ah oh, non, pas avant un deuxième mandat », comme on a déjà entendu certains chefs. Donc, ça peut ramener tout l'électorat traditionnel du Parti québécois. Mais en même temps, il y a une limite. Le Parti québécois n'ira pas chercher d'électeurs libéraux. Le Parti québécois n'ira pas chercher des gens qui croient dans la Confédération canadienne, et ils le savent. En même temps, en politique, tu n'as pas besoin de 50 % pour gagner une élection. Tu as besoin de 30 à 33 % pour gagner une élection. Donc, pour l'instant, ça place le Parti québécois en tête. Mmh.
Et est-ce que tu as l'impression que ça peut aller aussi avec le fait qu'on n'a pas parlé de problématiques au sein de la CAQ dans les dernières semaines, comme on en a parlé? Moi, je veux pas ça des problématiques, là, mais je veux dire, quand tu nous mens, quand tu vires de bord, quand c'est pas clair, quand tu as des rififis avec les partis sur des stupidités, quand tu as un échange comme M. Legault a eu avec Marc Tanguay à l'Assemblée nationale par rapport au prix des loyers, des logements, puis qu'on en a perdu le contenu pour aller dans le contenant.
On a des problèmes de financement, ouais. Des contradictions, on semblait avoir perdu le contrôle de Pierre Fitzgibbon. On n'a pas manqué de rebondissement au niveau de la coalition Amnesty-Québec cette session-ci. C'est sûr qu'on sent qu'ils ont resserré leur communication. On martèle un message, et c'est quoi? C'est l'immigration. L'immigration temporaire, le danger que cela, selon eux, peut représenter pour le Québec. On s'attaque au fédéral. On sait que c'est un cheval de bataille gagnant pour la coalition Avenir Québec. Ça leur a fait gagner leur première élection. Ça leur a probablement fait gagner leur deuxième élection. Ils misent là-dessus. Et je dois le dire, pour moi, l'étoile de la session, de ma part, du gouvernement, ça a été Christine Fréchette. Très silencieuse, discrète, mais particulièrement efficace et redoutable. Elle a su faire adopter... C'est le message de la coalition Avenir Québec depuis quelques semaines. François Legault le répète ad nauseam à qui veut l'entendre dans toutes les entrevues qu'il donne quand il l'en donne. Donc, c'est pour moi, Christine Fréchette a su se démarquer à travers la session. Elle a travaillé son dossier avec rigueur. Elle n'a pas sorti inutilement à certains moments. Elle a choisi ses moments pour critiquer le fédéral. Et force est de constater que ça paye. La CAQ semble avoir freiné sa chute, remonté tout doucement, comme je le disais. On parle des chiffres dans la marge d'erreur, là, plus 3 pour la coalition Avenir Québec, moins 2 pour le Parti libéral du Québec, et plus 2 pour Québec solidaire. Donc, à prendre avec un grain de sel, mais ce qui est rassurant pour le gouvernement en ce moment, on doit pousser un soupir de soulagement, c'est le fait qu'on ne descend plus. Donc, tendance qui semble être arrêtée. Maintenant, bâtissons sur l'avenir. Il reste encore beaucoup de temps. On dit souvent qu'un mois, c'est une éternité en politique. Donc, il reste près de 2 ans à ce gouvernement-là avant les prochaines élections. Ça va normalement, les gens, le bouton panique n'est pas encore scintillant, rouge.
Tout le temps encore d'arriver, là. Mais oui, tout encore le temps
oui,
d'arriver.
Oui, ça peut changer. On a le temps que ça a le temps de changer amplement d'ici là. L'été est souvent aussi une période où les gens effacent de leur mémoire tout ce qui s'est passé en politique. Donc, c'est aussi une belle opportunité de peser sur le bouton reset.
Ne le faisons pas, par exemple. Hein? Restons curieux, restons au fait. Sinon, on va être là pour vous à Boulevard 101 aussi sur le sujet. Hey, Jérémy, Guillaume, un petit clin d'œil là, rapide, on va terminer avec ça, sur le Parlement étudiant. J'ai l'impression qu'on ne connaît pas nécessairement ça. Pourtant, c'est une grande simulation. Il y a 150 étudiants de l'université qui, à chaque année, ce qu'on dit, qu'ils prennent le contrôle de l'Assemblée nationale. Finalement, c'est une simulation importante, une simulation simulation politique. Ça a mené à des carrières politiques dans certains cas. Ça a mené à un intérêt politique dans l'autre. Ça a mené à une assurance, une implication, une confiance en soi pour prendre peut-être la parole devant un public, débattre aussi. C'est des universitaires, donc il y a un certain, je ne sais pas comment bien le dire sans insulter personne.
C'est comme les jeux de la communication.
Oui, hein, mais il y a un intérêt, une connaissance, en fait, de la politique rendue là. Au secondaire, tu peux avoir un intérêt et une connaissance, mais à l'université, c'est un peu plus développé. Et là, ça se déroule en ce moment. Il y a des choses qui paraissent dans l'actualité. On dit qu'il y a des dettes là-dedans. Il y a des gens qui ont été sortis du Parlement, etc. Mais j'ai pas envie d'en parler comme ça. J'ai juste envie de faire un clin d'œil à l'événement en soi. Ça sert à quoi, le Parlement étudiant, Jérémy?
Le Parlement étudiant, c'est extrêmement formateur. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est l'équivalent un peu pour ceux et celles qui sont en communication ou qui ont des enfants qui sont en communication. Il y a les jeux de la communication au Québec qui donnent, qui font des simulations. Même chose pour les mordus de politique. Il y a la simulation de l'Assemblée nationale. Il y a l'équipe des Bleus, l'équipe des Rouges. On joue le rôle des députés. Il y a même des simulations avec des journalistes, des étudiants en journalisme. Donc, on recrée l'esprit de l'Assemblée nationale. Il y a un président de la Chambre, il y a un chef de caucus, il y a un whip qui tient son caucus ensemble. Donc, c'est une belle simulation. Je sais que là, on est un peu, on navigue en eau trouble avec des poursuites sur des allégations qui ont été faites. À travers tout ça, je pense qu'il faut pas oublier que c'est un exercice qui est extrêmement formateur, qui permet aux jeunes, peut-être aux futurs politiciens, politiciennes, puis aux futurs journalistes de ce monde, de se faire les dents, de voir si il ou elle aime ça, se sent confortable dans ces fonctions-là. Des fois, juste même de s'asseoir sur une banquette de député, ça peut être extrêmement impressionnant. Donc, c'est un bel outil démocratique et formateur pour nos jeunes. Je pense que ça doit continuer d'exister. On a vu ce qui se passe ce matin dans les journaux. C'est dommage. On espère que ça va se régler rapidement pour le bien de l'organisation et la continuité de ces activités-là. Ça reste que comme tous les événements de formation, les jeux de la science politique, les jeux de la communication à l'université, la simulation, le Parlement étudiant, je pense que c'est des événements qui sont ô combien essentiels et qui forment aussi tous des liens entre des potentiels collègues, des potentiels adversaires politiques. Donc, ça commence très jeune et c'est une belle occasion pour les étudiants, les curieux, curieuses de la politique de tremper l'orteil doucement dans cet univers-là.
Très bien résumé, en fait, puis j'ai l'impression aussi que ça forme la relève qui peut-être inquiétante, à savoir s'il va en avoir une en politique. Il y en aura toujours, mais quand même, sous quelle forme?
Il y en aura toujours, puis des fois, ils sont même meilleurs que nous, on l'a été quand on était là.
C'est ça, sous quelle forme? Et merci beaucoup, Jérémy Guillot, directeur chez TAC. On se reparle d'ici la fin de la saison de leur CV.
Super, merci. Bye
bonne bye. Journée. Oui, c'est malheureusement pour de la mauvaise presse que le Parlement étudiant fait jaser dans les derniers jours. C'est passé quelque chose entre des participants. Il y a aussi un problème peut-être de dette là-dedans qui est évoqué, entre autres, dans la presse. Mais ça reste quand même quelque chose qui est méconnu, mais important. 150 étudiants de l'université qui font une simulation politique. Moi, j'aimerais ça assister à tout ça. C'est sûr que je travaille, je ne peux pas le faire. Mais je pense que même si tu n'es pas en sciences politiques ou en communication ou autre, de participer à quelque chose du genre amène énormément de bon dans ta vie puis dans tout ce que tu seras comme adulte pour la suite des choses. Avant de prendre une courte pause, excellente nouvelle pour bien des Canadiens. La Banque du Canada a amorcé la réduction de son taux directeur. On l'a réduit de 5 % à 4,75 %. Donc, le conseil de direction a convenu que la politique monétaire avait plus vraiment besoin d'être aussi restrictive. Alors, on a abaissé ce taux-là et on a fait savoir que c'était important de le faire avec les récentes données. Ça a renforcé la confiance de l'inflation. Puis, on va continuer de se diriger vers la cible de 2 %, mesdames et messieurs. C'est un mouvement qui est en baisse de 25 points de base. C'est pas énorme, mais quand même, on s'attend à une diminution comme ça de plus en plus. Mesdames et messieurs, on est dans la pente descendante si nous continuons de cette manière et qu'on n'envoie pas encore des chèques ici et là, mais ça, c'est une opinion qui n'engage que moi.
Le samedi 15...
J'ai aucune idée s'il est au bout du fil, s'il a fini son point 5 km, mais il voulait participer à leur CV. Puis moi, c'est un honneur de l'accueillir pour la toute première fois dans cette petite émission-là d'une heure. Il est au bout du fil. Nathan Meilleur, as-tu fini ton point 5 ou tu nous parles en courant?
Non, j'ai fini mon point 5, mais là, c'est ça. Excusez-moi, je suis à l'extérieur. Puis au moment où je commence à te parler, évidemment, il y a un gars qui sort son tie-border, fait que je vais continuer à me déplacer.
C'est une bonne idée, ça. On le salue, par exemple. C'est un homme propre de son terrain.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est ça. Il est en train de mettre ça propre, là, effectivement. Mais ça, c'est la beauté de notre métier aussi. La radio en direct, c'est ça. C'est ce que ça donne parfois. Mais oui, je trouve ça vraiment gentil que tu m'aies invité. Puis d'abord, qu'on a eu la chance de faire de la radio ensemble là, à quelques reprises déjà dans les derniers mois, mais première fois pour moi dans leur CV, mais c'est sûr que ça arrive avec un sujet qui m'interpelle vraiment, vraiment.
Mais tu m'as surprise.
Personnellement.
Tu m'as vraiment surprise de ça parce que ce matin, ben comme à l'habitude, je suis allée faire ma chronique avec Reg Against le matin, Reg et les gars, puis ben j'ai parlé comme d'un sujet en regroupant en deux parce que on a appris dans l'actualité dernièrement que le secret allait être levé pour les personnes adoptées. Ça veut dire que si tu as été adopté au Québec, tu vas pouvoir connaître tes origines même si tes parents biologiques ne le souhaitent pas. Donc, à partir du 8 juin, dans quelques jours, c'est un changement législatif. Là, c'est tout à fait sérieux, en fait. Toute personne adulte qui a été adoptée au Québec, adulte est important quand même dans le dossier, là, va pouvoir connaître le nom de ses parents biologiques, que ses parents le veulent ou non. Et ça va donner accès à certaines informations, puis surtout aux enfants la possibilité de même les retrouver. Après, les parents ne sont pas obligés de faire en sorte qu'il y ait une relation, qu'il y ait un contact, soit verbal et ou une rencontre qui se fasse. Mais depuis 7 ans, les personnes qui sont adoptées avaient accès à leur dossier, mais seulement si les parents biologiques n'avaient pas inscrit un droit de veto, et ça tombe. C'est fini le secret, le veto, toute personne adulte va pouvoir connaître ses origines. Puis j'avais confié à Marceau cette semaine que ça allait peut-être être intéressant de recevoir un psychiatre ou un psychologue sur l'importance de connaître ses origines pour le développement parce que dans mes cours de psychologie, ça avait été effleuré, ça, que la manière dont on devient adulte, qu'on se forme et qu'on se développe, l'identité, que ce soit très concret dans notre tête, nos parents qui nous racontent notre histoire, qui racontent l'histoire de nos grands-parents, qui racontent peu importe quoi, et moins concret, soit les défauts, les qualités, les traits physiques de nos parents biologiques, ça compte énormément, qu'on le souhaite ou pas. Puis là, toi, t'entendais ça, puis tu t'es dit, ça vient me chercher parce que tu vas faire une demande dans les prochaines semaines.
Oui, c'est ça. Moi, je vais faire une demande dans les prochaines semaines concernant ma mère, en fait. Parce que moi, ma mère a été adoptée. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, c'est que cette loi-là est un peu en deux temps. C'est que moi, j'avais déjà commencé à faire des démarches il y a quelques années déjà, parce que moi, ma mère est décédée. Ça fait 15 ans cette année déjà que ma mère était décédée. Puis, ma mère, elle n'a jamais voulu faire les démarches. Elle a toujours été bien là-dedans. Elle nous a toujours dit, on a grandi avec cette image-là, cette idée-là de... moi, j'ai des parents qui n'étaient pas en mesure de s'occuper de moi ou je ne connais pas l'histoire et ça ne m'intéresse pas de la connaître parce que j'ai des parents qui sont venus me chercher, qui sont venus m'adopter et qui se sont bien occupés de moi. Donc, dans ma tête, dans mon cœur, à moi, c'est mes parents.
Mais est-ce que, c'est la question est fragile par rapport à ça, puis tu as le droit de ne pas répondre, mais est-ce que tu as l'impression qu'elle avait fait les recherches, elle avait été déçue, elle avait bouclé le dossier ou encore que ses parents adoptifs avaient fait en sorte que ça ne l'intéresse pas? As-tu senti une influence et ou une découverte d'informations qui a mené à une fermeture de ce côté-là?
Bien, là, c'est là que ça devient intéressant, ton intervention avec le psychologue ou avec le psychiatre encore. Ce qu'il faut savoir, puis là, je livre l'information, je me permets de le faire parce que, justement, elle est décédée, donc elle n'est plus là pour m'appeler après mon intervention puis me dire « Comment ça se fait que tu as parlé de ça à radio? » C'est qu'il faut savoir que ma mère, elle était malade. Quand elle était petite, elle avait une maladie au rein. Puis elle a été adoptée. L'histoire que nous, on connaît, c'est qu'elle aurait été adoptée à l'époque à la crèche de Sherbrooke. Puis les parents qui l'ont adoptée à l'époque se sont rendus compte qu'elle était malade après l'adoption, sont retournés à la crèche, puis ils ont fait un échange.
Ah, mon Dieu!
Fait qu'ils ont ramené ma mère. Puis finalement, moi, mes grands-parents adoptifs, quand ils ont adopté ma mère, elle avait déjà 4 ans. Quand ils l'ont adoptée, puis ils ont décidé de l'adopter quand même si elle avait 4 ans, au lieu d'adopter un jeune enfant, un petit bébé, parce qu'il y a tout un contexte. Mais ma grand-mère était malade aussi à l'époque. Elle voulait quand même avoir un deuxième enfant. Donc, il y avait quelque chose de plus simple, peut-être, d'adopter un enfant de 4 ans. Puis même affaire, mes grands-parents sont retournés à la crèche pour voir les sœurs à l'époque pour dire là, cet enfant-là est malade, est-ce qu'on pouvait avoir votre soutien financier? Puis les sœurs avaient répondu la même chose à mes grands-parents adoptifs. Ben ramenez-nous là, on va vous en donner un autre. J'étais comme ça à l'époque. J'étais traité un peu cette façon-là. Fait que, moi, je pense que même à 4 ans, il y a quand même une notion d'abandon
oui.
que tu comprends. Puis,
que tu comprends ou que tu comprends pas, mais ça joue, puis même dans le ventre de l'enfant en plus, c'est ça qui dans de la ventre de la mère, c'est ça qui est fou, là, les recherches qui sont faites actuellement voient des liens entre justement peut-être une négligence et ou un sentiment de non-vouloir de l'enfant quand il est en conception. Là. Donc ce que tu dis, c'est gros. Là.
Ce lien-là est tellement fort, effectivement, tu sais, il y a tellement quelque chose d'important là-dedans. Que, t'sais, moi, l'impression que ça m'a donné après tout, en grandissant, en vieillissant, puis en comprenant un peu plus la situation, moi, j'ai l'impression que ma mère n'a jamais voulu faire les démarches de peur de rencontrer, peut-être, ou avoir accès à ses parents biologiques, mais de se faire, encore une fois, abandonner. Fait que c'est sûr que la notion d'abandon, effectivement, va jouer énormément, mais comme on le disait tantôt, vu bon, le premier volet de la loi qui donnait quand même accès à une démarche. Puis à partir du moment où tu faisais la démarche, soit tu te faisais dire par les instances, ben oui, vos parents biologiques n'ont pas demandé à garder l'anonymat ou non, ils ont demandé à garder l'anonymat, donc fin des procédures. Moi, j'avais quand même fait des démarches par rapport à ça pour voir, étant donné que ma mère est décédée, mais que je suis son enfant, est-ce que moi, je peux avoir accès à ce détail-là? Et on m'avait dit, il y a moyen, s'il y a encore les papiers d'adoption, parce que malheureusement, je n'avais plus ce qu'on n'avait plus. Ou sinon, là, il aurait fallu que ce soit ma mère qui fasse la demande à proprement dit. Là, c'est là que j'avais dit, ben là, il y a comme un no man's land dans votre toit parce que ma mère est plus là. Fait qu'au fond, moi, vous me dites que je pourrais jamais avoir accès peut-être à tout un bagage génétique parce que ma mère est décédée. Ouais, c'est un peu ça qui arrive. Puis j'ai l'impression que le deuxième volet de la loi, probablement qui est arrivé, entre autres, à cause de des points comme ceux-là. Entre autres, à cause de ce no man's land-là où est-ce qu'il y a des parents qui étaient décédés, eux avaient eu des enfants, c'était des enfants de parents biologiques, mais que ces parents-là avaient été adoptés. Puis là, on n'avait pas accès à l'information. Fait qu'on restait dans le néant total. Puis là, tu vois, maintenant, la loi nous permet, justement, même si on est des enfants de parents adoptés, mais décédés, de pouvoir faire ces dites démarches-là. Là.
Mais toi, Nathan, là, c'est nouveau, en fait, la demande que tu souhaites faire, dans le sens où tu n'as pas souhaité faire ça il y a 15 ans et autres. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est une histoire d'hérédité en termes de santé, vu qu'on connaît que tu as eu des problèmes de santé dans les dernières années avec le cancer que tu as surmonté, ou ça va plus loin que ça?
Bien, la première fois que j'ai voulu faire la démarche, il n'y avait pas encore eu la maladie. Mais moi, j'étais curieux de le savoir, parce qu'il y a toujours des histoires pareilles quand il y a des adoptions comme ça. Moi, mes grands-parents, ils ont grandi dans le secteur de Tempermine, puis il y avait des mines là-bas qui étaient très, très exploitées à l'époque. Il y avait beaucoup d'Américains, il y avait beaucoup d'immigrants qui venaient travailler dans les mines. Puis nous, on nous a toujours raconté à ma famille et moi que c'était mes parents, mes grands-parents biologiques étaient italiens. C'est les Italiens qui étaient venus s'établir ici. Puis c'était une aventure d'un patron avec sa secrétaire. Puis finalement, elle tombe enceinte, puis lui aurait mis de la pression en disant « on peut pas garder cet enfant-là parce que, évidemment, ça va nuire à mon union, ça va nuire à mon mariage. Elle n'a pas été capable de s'occuper de ma mère toute seule, donc place ma mère en adoption. » Mais tout ça, est-ce que c'est vrai maintenant? Fait qu'il y avait quand même un aspect de curiosité, mais là, c'est sûr que depuis la maladie, la réponse à ta question, c'est oui, ça a rajouté une couche. Parce que tu sais, c'est sûr qu'il y a tout un bagage génétique que moi, j'ai pas, que je connais pas. Il y a plein de questions que des médecins m'ont posées quand j'étais malade à l'hôpital puis pendant les suivis, où je pouvais répondre seulement à 50% en leur disant « je connais du côté de mon père, mais je connais pas du côté de ma mère, je sais pas s'il y a déjà eu des problèmes cardiaques, je sais pas si... » Puis là, ben, c'est sûr que moi, j'ai des enfants aussi maintenant. Fait, c'est juste qu'il y a un effet domino à tout ça. Hein. Ce 50%-là devient, bon, si on le voit de cette façon-là, devient comme 25% chez mes enfants, ou devient le corps un peu chez mes enfants à ce moment-là. Mais je suis désolé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit.
On t'entend quand même.
Je vais juste me déplacer vraiment rapidement. Mais c'est ça, c'est juste que là, il y a un effet domino, justement, qui se trouve par rapport à ça. Puis de ne pas savoir pour mes enfants aussi, ça a un impact. Bon, heureusement, c'est sûr que moi, de mon côté, le cancer que j'ai eu, on m'a dit, c'est pas vraiment héréditaire. c'est sûr qu'à partir du moment où est-ce que, bon, tu développes un cancer, ben c'est sûr qu'il y a des chances que dans ta génétique, il y ait un trait quelque part qui va faire en sorte que tu vas avoir plus tendance à développer peut-être des cancers, mais en même temps, ça, c'est un peu la réalité de tout le monde maintenant.
Ça a joué quand même dans ta quête là, actuelle. Ça amplifie en fait ce désir-là. Mais toi, en tant que petit-fils, ça reste une curiosité ou une quête d'identité, Nathan?
Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a plus de curiosité que de quête d'identité parce que au fil du temps, j'ai rendu à 37 ans maintenant, je pense que je me suis bien défini comme personne dans la vie, même si ça m'arrive des fois de me chercher encore, mais tu sais, quand je me cherche, c'est beaucoup pour par rapport à la nouveauté. Tu sais, tu deviens parent dans la vie, mais là, c'est sûr que tu te cherches comme parent parce que tu n'as jamais été parent avant non plus. Mais sinon, tu sais, en général, j'ai pas nécessairement besoin de rencontrer ces gens-là ou de savoir d'où je viens à proprement dit pour me définir. Par contre, je suis curieux de le savoir. Je suis vraiment curieux de le savoir. Mais même si je fais les démarches, je sais pas si j'aurais tendance à tenter de rentrer en contact avec ces gens-là. Ça, la réponse à cette question-là, pour l'instant, honnêtement, avec toi, je ne l'ai pas. Je ne le sais pas. Si c'est vraiment une histoire de génétique italienne, puis je sais que j'aurais vraiment de la famille peut-être là-bas encore, là, je serais peut-être intéressé à voyager, à aller voir justement les gens de ma famille là-bas, à comprendre la culture de là-bas. Là, je trouve qu'il y a comme une double quête qui est intéressante. Mais si j'apprenais que c'est une famille québécoise qui habite ici, je sais pas si j'aurais un intérêt à rentrer en communication avec eux, mais c'est de la curiosité. J'ai vraiment besoin de le savoir. Puis je l'aurais jamais fait si ma mère était encore vivante. Mais là, le fait que ma mère n'est plus là, parce qu'elle voulait pas le faire, fait que je la respectais là-dedans. Mais maintenant qu'elle est plus là, c'est ça que je vais me gâter puis je vais le faire. Puis mes amis sont au courant parce que tu sais, moi, cet article-là, je l'ai même pas vu passer. C'est un de mes amis, Jason, qui m'a écrit avant-hier pour me dire « Hey, regarde ça, je l'ai lu deux fois, puis je pense que tu peux passer direct maintenant puis faire la demande. » Fait que, tu sais, même mes amis et mon entourage sont au courant que si j'avais l'opportunité, j'aimerais ça faire cette démarche-là. Fait que je trouve quand même que c'est bien qu'on ouvre la porte et qu'on donne plus de possibilités.
On va terminer là-dessus. Nathan, c'est vraiment gentil, ton témoignage. C'est très, très généreux aussi là, pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Nathan qui est à la recherche, en fait, de questions, d'une certaine curiosité pour retrouver ses grands-parents biologiques parce que sa mère a été adoptée puis elle n'a jamais voulu savoir, en fait, qui étaient ses parents biologiques. Puis Nathan souhaite le savoir une fois que sa maman est décédée. Mais moi, je me pose toujours la question, tu sais, c'est très, très tragique, là, ce que je vais te dire, mais un enfant qui est né, qui est issu d'un viol, puis que la mère en question a mis à terme sa grossesse, et puis elle s'est dit, je pourrai jamais donner la belle vie à mon enfant qu'il mérite parce que je vais toujours avoir ça en tête, tu sais. Puis j'ai envie que cet enfant-là n'ait pas ça en tête dans la manière dont il va être élevé, puis qu'il va se développer, qu'il va être vu comme un enfant, point, désiré, souhaité, aimé, et jamais avec la petite en arrière de toi, je t'ai pas nécessairement voulu, je peux t'aimer de tout mon cœur, mais ça reste que ton père, c'est quelqu'un qui m'a violé. Il y a toujours ça. Je me demande s'il y aura peut-être mais en même temps, comment tu peux légiférer ça. Mais c'est le questionnement que je me posais. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait malgré tout, là.
C'est sûr. Puis en même temps, c'est une excellente question. Puis tu sais, je vais faire un parallèle encore avec la maladie. Tu sais, maintenant au Québec, dans le système de santé, quand tu es atteint d'un cancer, rapidement, tu vas être jumelé avec un travailleur social ou une travailleuse sociale ou un psychologue spécialisé en oncologie. Est-ce que, étant donné qu'on ouvre la porte avec cette loi-là aujourd'hui, on ne devrait pas aussi avoir ce filet-là? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être proposer aux gens, si jamais vous faites la démarche puis que vous apprenez telle ou telle nouvelle, ben sachez que via le département justement qui s'occupe de faire le pont, on a un accès direct, on a une ligne, on a un lien avec des travailleurs sociaux, peut-être des gens qui pourraient venir supporter là-dedans. Tu sais quoi, je sais que c'est une société d'État, mais on le fait avec l'Auto-Québec. On supporte les gens psychologiquement avec l'Auto-Québec qui gagnent des gros montants, ouais, puis on les accompagne là-dedans justement pour pas qu'il y ait de gaffe, justement parce que malheureusement, il y a eu des histoires d'horreur, il y a des gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, qui sont devenus pauvres quelques mois, quelques années après. Fait qu'est-ce que ça serait peut-être une option avec ce nouveau plan-là, cette nouvelle loi-là, d'avoir un billet vers un soutien. Puis tu sais, c'est ce que j'aurais envie de dire, ton point est très, très bon. Si vous voulez faire des démarches, puis que c'est vous directement, peut-être justement discuter avec un professionnel de la santé mentale ou quelqu'un qui sera en mesure de vous supporter puis au moins de vous éclairer par rapport aux risques potentiels qu'il y a de faire ces démarches-là, puis peut-être
absolument.
Que ça va vous freiner, puis c'est bien correct.
Au traumatisme, à tout ce qui peut être chamboulé au niveau mental, psychologique, puis on termine là-dessus parce que là, je vais défoncer dans l'émission de Marceau, puis il m'écœure déjà assez comme ça, fait que je pense pas que je vais ajouter quelque chose dans le panier.
Je veux pas l'encourager là-dedans non plus.
Non, c'est ça, mais j'ai quelqu'un autour de moi qui a fait des démarches dans la dernière année pour retrouver sa famille biologique qui habitait dans un autre pays. Puis elle a toute fait les démarches, elle a pris contact avec, elle s'est cédulée un voyage, elle est allée. Puis au final, la déception a tellement été grande parce que des fois, c'est des pays où on a besoin un petit peu plus d'argent, un peu plus de quiétude économique. Puis c'est pas nécessairement la vertu de retrouver quelqu'un qu'on a dû laisser partir il y a quelques années qui prime.
Ouais, fait que
ça peut être des grandes déceptions aussi. Oui, le parcours psychologique, l'accompagnement reste important là-dedans. Merci, Nathan Meilleur, pour tes confidences. Puis tiens-nous au courant dans le processus si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse.
Bien, c'est sûr que oui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une belle jasette, bien le fun.
On te laisse à ta course, mon cher. Puis on te reparle très prochainement. Nathan Meilleur, notre collègue qui se confiait par gentillesse. Salut, cours, là. Cours parce que ça va être en retard à job.
Oui.
Salut, là!
Ciao!
Hey, salut tout le monde, merci d'avoir été dans l'heure CV. On conclut ça rapidement, vitesse grand V. Hein? On sprint avec Nathan. À tout de suite dans Marceau le midi.